Bien, bonjour à tous. Nous sommes ravis d'accueillir Guy Briolle aujourd'hui pour cette deuxième conférence du cycle du séminaire des échanges qui a lieu grâce à la librairie Mola et à la CF en Aquitaine. Alors, Guy Briolle est psychiatre, un psychanalyste. Il exerce à Paris et à Barcelone. Il est professeur de psychiatrie et il fut pendant 20 ans médecin-chef de la clinique de psychiatrie de l'hôpital de Val-de-Grâce à Paris. Il est membre de l'école de la cause freudienne, de la Escuela Lacaniana de Psychoanalyse, ELP, et de l'Association mondiale de psychanalyse, l'AMP. Il fut président de l'Eurofédération de psychanalyse jusqu'au dernier congrès, People 12, qui a eu lieu en juillet à Bruxelles. Il participe à l'enseignement dans le cadre de différentes sections cliniques, particulièrement en Espagne et en Amérique latine, à l'Instituto Nova Escuela. Désolée pour l'accent, de nouveau.
C'est bien.
Guy Briolle est auteur de très nombreux articles, notamment sur le traumatisme, en particulier de guerre. Et vous continuez à vous impliquer dans des actions où s'exerce la violence avec les collègues de différents pays, dont l'Amérique latine, l'Espagne, lors des attentats de la gare d'Atocha à Madrid et au Moyen-Orient. Et c'est la raison pour laquelle nous vous avons reçu la dernière fois chez Mola. Vous êtes l'auteur de l'ouvrage « Monologue partagé avec la folie », livre où vous témoignez de votre pratique d'analyste et des questionnements entre folie et liberté. Et donc nous pouvons le retrouver à la librairie, que Mola a bien voulu mettre à notre disposition. Il y aura une séance de dédicace à la fin de cette rencontre. Et donc, aujourd'hui, nous vous accueillons pour une intervention que vous avez choisi d'intituler « Le discours analytique aujourd'hui, la question psy, dérive et conséquences ». Donc, on va voir ce que recèle ce terme de psy, puisque vous le mettez en question à l'appui de d'autres références. Et donc, il y a des problématiques qui sous-tendent votre texte, notamment, au fond, quelle est la spécificité de l'orientation analytique, qui est notre orientation, en quoi la psychanalyse se situe à côté, ou à l'envers, ou en dehors, c'est à définir, on va en discuter, de, justement, la question psy. Par quel abord de la parole et de l'écoute s'oriente la psychanalyse? Et également, mais enfin, il y a plein d'autres questions qui vont surgir, quel est le lien de l'orientation analytique au savoir et à la vérité? Nous vous écoutons.
Eh bien, merci beaucoup. Lors de notre première rencontre, nous avons en effet parlé de la folie et du fait que le dit fou, comme tout un chacun, ne conserve sa part de liberté qu'en soutenant une parole. Lacan insiste à dire que cette parole a toujours sa valeur d'échange et en ce sens, cela nous concerne tous, aussi les psychanalystes du XXIe siècle. Quand la parole est attaquée et empêchée dans son rôle civilisateur, c'est la violence qui s'impose. Nous le notons au quotidien dans le monde mouvementé où nous vivons. Le lien social est de partout attaqué. La valeur attribuée à la parole et aux engagements qu'elle porte n'a plus la même force, n'a plus la même valeur. Les mots eux-mêmes perdent en précision et leur usage détourné conduit plus qu'à des malentendus à un impossible à communiquer. Impossible. Voilà un signifiant qui s'impose de plus en plus, y compris dans notre champ. Impossible à rêver, impossible d'aimer, impossible à dire, impossible à supporter. Et ailleurs, c'est aussi impossible à faire, à comprendre, à prévoir, à cacher, à montrer, impossible à l'infini. Donner toute sa portée à la parole suppose qu'elle soit écoutée, qu'il y ait, comme le dit Lacan dans « Je parle au mur », des esgourdes appropriées, ceux pour que les symptômes ceux d'une clinique de l'observation, ne recouvrent pas les dires du patient. Cette clinique fait taire le patient, elle fait le pari de la catégorie, de la classification. Les murs ont des oreilles, soutient le dicton populaire, quand il s'agit surtout dans une conversation qu'un secret soit bien gardé. Avec le psychiatre moderne, le patient se heurte à un mur, mais sans oreille. Donc sans possibilité que ce secret, un traumatisme de l'enfance, un inceste par exemple, le secret de ses voix que le patient peut vouloir faire connaître, ne puisse être confié au psy. Ça ne touche pas seulement les psys, c'est une question plus répandue, c'est extensif. Alors, l'effondrement des mots. Je voudrais commencer par reprendre ici, en utilisant sa parole, une intervention très forte de Camille Laurence dans la grande librairie du 5 mars de cette année. Vous connaissez certainement Camille Laurence et particulièrement au moins deux livres récents, Ta promesse et un qui s'appelle Fille, qui est paru en 2020, où à la question qui est posée au père, vous avez des enfants? Le père répond non, j'ai deux filles. Voilà, pour vous situer Camille Laurence. Alors, dans cette intervention de la grande librairie, elle dit ceci. Jeune professeur en collège, j'étais en train d'expliquer le mot volubile. Et comme aucun élève notait la définition, j'ai demandé pourquoi. Ils m'ont répondu que ce n'était pas la peine. Parce que ce mot, madame, on ne l'emploiera jamais. C'est de la langue de riche. D'accord, dit-elle. Mais j'ajoute, mais cette richesse est à tout le monde. Il ne tient qu'à vous de la posséder et même de la faire fructifier. Plus vous gardez la langue en vie, la langue vivante, et plus vous le verrez vous-même, la violence s'éloigne. L'ennemi, tu lui mets les points sur les i plutôt que ton point dans la figure. On a ri. Parce qu'aussi on peut jouer avec les mots. Je repense souvent à eux, à la nécessité de préserver le langage, ce privilège humain et son trésor d'humanité. Je poursuis encore un peu avec cette intervention de Camille Laurence. Voilà ce qu'elle dit. Nous sommes collectivement responsables de la vitalité du langage et de sa précision, de sa justesse. Toutes les dictatures, on le sait, commencent par détruire le pouvoir de vérité de la langue. Non, affirmer ses convictions ne mérite pas la prison. Non, l'agressé n'est pas l'agresseur. Et il ne fait pas beau quand il pleut. Céder sur les mots, c'est risquer de céder sur les choses. Qu'y a-t-il après la post-vérité, sinon la barbarie? Nous n'avons pas de terre rare plus précieuse que la langue. Alors, conclut Camille Laurence, tenons parole. L'évaluation et le pouce à se taire. L'appauvrissement culturel des sociétés modernes fait la part belle à la science triomphante, tout comme au capitalisme insatiable qui ne nécessite pour se propager qu'un stock de mots réduit, un langage simplifié faisant l'impasse sur l'effort de réflexion. Le comment on en jouit se présente avant le comment ça marche, excluant à quoi ça sert. La valeur attribuée à la parole traverse une véritable crise et l'effondrement des mots va de pair avec une réactivité très primaire à la moindre gêne que peut occasionner la présence d'un autre. Des autres. Un regard vaut pour une insulte et le coup est parti avant même qu'un dialogue n'ait pu s'établir. Dans le monde, le bruit des canons précède les chuchotements feutrés de la diplomatie, là où encore récemment, la guerre signe l'échec des ambassadeurs. La tendance est à imposer à l'autre, par la force, par une suggestion appuyée, par une argumentation scientiste contraignante, et que l'évaluation raisonnée a décidé d'être bon pour des individus qui eux-mêmes ne savait pas que c'était ça qu'il voulait. Les voilà maintenant informés et parfois convaincus, tant ils sont pris dans le tourbillon de l'écométrie qui a étouffé l'économie. Plus besoin de repasser par les mots pour ramener l'esprit à la controverse et à renouveler les accords entre les hommes en fonction des moments et de la réalité qu'ils traversent. On les persuade qu'avec des outils scientifiques qui empruntent au langage mathématique, les évaluateurs leur font un monde sur mesure, dans lequel il ne leur restera plus qu'à se glisser pour jouir sans limite. Quand je veux, certes, mais à condition que tu te taises. On parle à ta place. Alors, l'écoute contre le penser unique. La société du formatage par l'évaluation pousse au bavardage vain et réduit les échanges à l'utile d'un quotidien sans surprise. Elle génère en fait des sujets morts au désir, de plus en plus centrés sur une jouissance promise qui leur échappe chaque jour davantage et qui les ravage. Ce n'est pas réservé à la jeunesse, comme on a tendance trop souvent à le dire. C'est pour tous les âges. Alors, chacun rivalise et s'épuise à trouver sa part de jouissance au prix d'effacer les différences, de combler les intervalles, ceux où la parole pouvait se loger et permettre une transmission entre les générations. Il est très difficile de se faire entendre dans le bruit monocorde du penser unique, vibrant du chiffrage et de l'évaluation, du démontrer scientifiquement. Le monde est aux mains des experts. Un expert, c'est celui qui fait poids dans la langue de l'autre du pouvoir. Celui dont le prérequis se mesure à sa bibliométrie, à son impact factor. Encore que récemment, un homme connu pour sa fortune s'autorisa à rejeter d'un revers de main l'impact factor d'un économiste universitaire reconnu. Quel est ton impact factor ? Voilà une question que les psychanalystes ne se posent pas a priori. Ses interlocuteurs dans le champ psy, économique, politique, social, d'aujourd'hui, oui, ils se posent cette question. L'impact factor les intéresse. Pourtant, dans un monde psy qui a déserté la clinique et le transfert pour les statistiques, la biologie et les protocoles, les seuls qui restent présents auprès des patients en privé, mais aussi dans les hôpitaux, dans les dispensaires, eh bien, ce sont les psychanalystes. L'attention portée à celui qui nous parle de lui, des siens, du contexte dans lequel il évolue, voilà un bon critère d'évaluation. Ce temps passé à écouter ne donne-t-il pas à l'analyste une place particulière dans cette société ? Avec qui aujourd'hui est-il encore possible de parler de la vie, de la sexualité, de l'avenir, des enfants, de la maladie, de la mort? Ni le médecin, ni le politique ne veulent plus se faire l'interlocuteur d'un sujet face à ces questions existentielles. Le chiffre est la seule réponse codée qu'ils savent manier. Mais ça, c'est inutilisable pour le sujet et ajoutons aussi pour le citoyen. Alors, la médecine et la psychiatrie, une privatisation d'un savoir. Lacan, dans son séminaire Le Transfert, stigmatise le médecin qui pense, à l'instar d'Éric Simac, que sa pratique s'est toujours crue scientifique et qu'elle relève du grand art. Et il fait partie de ceux qui, étant spécialistes d'une compétence, se jugent qualifiés pour parler de tout. De l'amour, de la politique, de ce qui est bien, de ce qui est mal, ajoutons pour faire bonne mesure, de la sexualité, de la famille, de la vie, des races. Peut-être aussi parce qu'il a de moins en moins d'intérêt pour le malade mais toujours autant pour le pouvoir et aujourd'hui pour les plateaux de télévision. La médecine déploie progressivement ses protocoles sur les différentes tranches d'âge avec le renfort et les encouragements du pouvoir. À ce point d'organisation méthodique, l'évaluation du citoyen par le médecin a détruit le lien social. Et cela pousse donc à une médecine des masses managée par l'industrie. La société ordonnée par le médical s'installe et gagne partout où recule la psychanalyse. Là où elle résiste, cette évolution n'est pas inéluctable. Il est possible d'affirmer qu'avec la psychanalyse, une valeur est encore donnée à la parole. C'est un point que nous partageons avec tous ceux qui osent le penser autrement, avec les acteurs de la culture, mais aussi avec une presse engagée et non asservie au pouvoir. Arrêtons-nous un instant sur la culture, en soulignant qu'elle est un champ d'intersection avec la psychanalyse. La culture, comme la psychanalyse, s'oppose au formatage de la société gestionnaire par la subversion et la stimulation des échanges et du débat. La culture ne peut se réduire aux chiffres. Elle n'est pas en compétition avec les industries du loisir. Elle est d'un autre ordre. La Comédie française n'est pas le Parc des Princes et pas davantage, on pourrait dire, que Salzbourg n'est Disneyland. La culture est joyeuse, ouverte aux surprises, aux rencontres. Elle est tout à fait à l'opposé donc du divertissement planifié. Je voudrais maintenant vous parler d'un ordonnancement des discours. Vous savez que Lacan donc, a établi un discours comme un mode structuré par la parole, du rapport aux autres. Et il y a des places qui sont attribuées et particulièrement... parce que je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais je voudrais insister sur ici, en haut et à gauche, qui est la place de l'agent. Eh bien, dans ces quatre discours, vous voyez que la place de l'agent peut être occupée par le savoir, l'autre par le S1, qui est le signifiant maître, le S barré dans le discours de l'hystérique, et l'objet petit a dans le discours de l'analyste. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, ça, c'est un peu surprenant. Que penser de cet ordre ? Lacan place à gauche, en première place, le discours universitaire, là, mis donc au premier plan. Là où on aurait pu s'attendre à trouver le discours du maître, qui est aussi le discours de l'inconscient. Notons que dans les deux cas, la place de l'agent, comme je vous le disais, en haut et à gauche, est occupé par le savoir, S2, et, dans le deuxième discours, par le signifiant maître, S1. Disons que ce sont ces deux discours qui, d'une certaine manière, menacent le discours analytique. Et, pour les séparer, le discours de l'hystérique, qui interroge tous les discours fondés sur le savoir et sur le maître. Voilà, pour le dire très vite, quelques-uns des risques qui menacent la psychanalyse par une psychologisation de la pratique. Le discours analytique pouvant lui-même disparaître, noyé dans les autres discours. Nous soulignons aussi le risque de déplacement du discours analytique vers d'autres discours. Si cette question revient aujourd'hui avec force, elle n'a jamais cessé d'être présente, et Lacan lui-même, à son époque, a toujours maintenu le tranchant de l'invention freudienne, pour éviter qu'elle ne sombre dans une psychologisation, je le redis, du discours analytique. Une façon de le faire sombrer est d'inclure les analystes dans son mot pour tous, psy. Voilà, ce mot, psy, est apparu en 1962 dans un article de Jean-Bertrand Pontalis et d'Anne-Lise Stern dans une revue donc dirigée par Jean-Paul Sartre, Les temps modernes. C'est la première fois que quelqu'un écrivait ça. Psy. Alors, je voudrais que l'on s'arrête justement sur cette écriture en forme, je dirais, d'estampille, en quelque sorte, cette bannière sous laquelle les psychanalystes seraient invités à se ranger. Remarquons qu'en 1962, c'était une époque où Jean-Bertrand Pontalis était encore dans l'école de Lacan. Les difficultés et les scissions apparaîtront plus tard. Alors, c'est lors d'une réunion du groupe d'actualisation clinique, le 13 juin 2003, que Jacques-Alain Miller a attiré notre attention sur ce signifiant psy. Le groupe d'actualisation clinique était un groupe qu'avait fondé Jacques-Alain Miller et qui se réunissait d'une dizaine de collègues et qui se réunissait donc dans mon service après que Jacques-Alain Miller ait fait sa présentation et la discussion du cas. Mais nous, quand on se réunissait, c'était pour réfléchir sur les conséquences de ce qui était apparu dans ces présentations. Et la première chose qu'il nous avait dite était la suivante. Chaque fois que je croise notre amie Anne-Lise Stern sur le boulevard Montparnasse, elle me rappelle que c'est elle qui a inventé le mot « psy ». Et Jacques-Alain Miller faisait valoir que « psy » était comme un signifiant pris dans la masse, dans une masse. Il est corrélatif, en effet, de la psychothérapisation de la société. Il est devenu presque un lieu commun, les psys. Cela soulève également une question sur un risque de disqualification, auquel notre milieu doit également être attentif. C'est pas que pour les autres. La discussion dans le groupe d'actualisation clinique porta sur savoir comment préserver le noyau dur de la psychanalyse dans un monde où on est pris dans le psy. On peut en débattre, on peut le nier, mais les ponctuations de Jacques-Alain Miller firent ressortir que le nier serait vraiment une dénégation. Car les personnes aussi que nous formons, qui viennent chez nous pendant un certain temps et qui continuent d'y venir, vivent aussi de ça. Ils font du psy. Mais la question ne se pose pas que pour eux, elle se pose pour tous. Car si nous n'y prenions pas garde, pour une partie, nous ferions aussi ça du psy. Alors je vais m'arrêter un petit peu sur ce texte donc, qui est dans ce numéro des temps modernes. Vous verrez d'ailleurs que c'est en résonance avec des questions que l'on se pose nous et auxquelles je sais que les instances des écoles et de l'AMP sont attentives. Dans les années 60, à l'époque où ils écrivent cet article, commence à s'infiltrer dans les institutions la psychanalyse. Ce fut au début une praxis confidentielle, puis elle prit une toute autre dimension jusqu'à devenir un mythe collectif. Tout le monde a son avis sur la psychanalyse. Un point important qui est souligné par les auteurs et que l'on pourrait tout à fait prendre à notre compte aujourd'hui, et je le cite, « L'analyste doit s'inquiéter de savoir la place qu'il occupe dans ce mythe et, si possible, de ne pas faire sienne la fonction dont on l'investit. » En ce sens que, au fond, la reconnaissance peut être le premier pas d'une assimilation. Par exemple, dans les manuels de psychiatrie, même les mieux écrits comme celui d'Henriet, rédigé en collaboration avec Paul Bernard et Charles Brisset, Charles Brisset qui était un analysant de Maurice Bouvet. Donc vous savez que Lacan va parler, s'appuyer beaucoup sur ce qu'il faisait pour dire que c'était ce qu'il fallait pas faire. Alors ce traité est devenu le traité de référence de générations successives de psychiatres, ma génération aussi. Et ils sont très imprégnés de la clinique de Freud, surtout des saintes psychanalyses, mais aussi d'introduction à la psychanalyse. Mais en fait, à y regarder de plus près, on ne s'y retrouve pas. Une des connaissances de cette reconnaissance, comme je disais tout à l'heure, c'est l'inversion qui se produit. Là où le sujet allait chez l'analyste pour trouver la voie de son désir, maintenant, on demande au psychanalyste qui nous enseigne ce qu'est le bonheur, ce que doit être un adulte, un enfant, un parent. Ainsi, le sujet apprend de la psychanalyse, ou plus exactement des psychanalystes, tout en évitant de se confronter à ses propres questions en analyse. Si on n'y est pas attentif, les rôles s'inversent rapidement. Enfin, cela montre que chaque fois que nous présupposons quelque chose du désir, d'un choix à un sujet, nous lui refusons sa position de sujet. Et c'est même en tant qu'objet que nous pensons qu'il doit agir de telle ou telle manière. C'est typiquement ce que nous appelons analyser à partir de son propre fantasme, celui de l'analyste dans ce cas. Pour illustrer les risques dont nous venons de parler, je vais reprendre un paragraphe du séminaire 14 qui fait référence à la position de l'analyste face, c'est un mot de Lacan, aux besoins particuliers de la vie qu'expose l'analysant. Je cite ce paragraphe d'une dizaine de lignes de Lacan parce qu'il me paraît vraiment très important quand on voit l'époque à laquelle il a été énoncé. Comment le psychanalyste pourrait-il apprécier ce qui motive les besoins de l'analysant? S'il les rapporte purement et simplement aux bénéfices que le sujet pourrait en recueillir ou non dans la réalité. Le sujet a-t-il besoin de se marier avec tel ou tel? Qu'en savez-vous, dit Lacan. Il a loupé son mariage à tel détour, et si c'était pour lui une veine? Que savez-vous? De quoi vous mêlez-vous? Dites-vous bien que la seule chose à quoi vous ayez affaire, c'est à la structure logique de la position subjective dont il s'agit, qu'elle soit névrotique comme dans le cas présent ou autre. Si vous omettez, ajoute Lacan, la première étape, l'étape essentielle qui consiste à l'articuler, vous ne savez rien. Autrement dit, c'est à la seule lumière d'une articulation logique ne faisant intervenir aucun préjugé concernant ce qui est à souhaiter pour le sujet, que peut se juger ce qui est du registre des résultats dans le réel. Cette phrase, je trouve, nous enseigne, et vraiment, elle est percutante. Annelise Stern a fait paraître, dans une reprise de son texte des temps modernes avec Pontalis, mais cette fois sous son seul nom, je pense d'ailleurs que c'est la Revue française de psychanalyse a dû publier ce texte, parce qu'il est sorti en 2015 et Annelise Stern est décédée en 2013, donc c'est un article a posteriori. Mais cette fois, donc, c'était sous son seul nom, et surtout, j'ai retenu ce texte parce qu'elle rapporte ce que dit Anna Freud à un endroit de son livre, Le traitement psychanalytique des enfants. Voilà de quoi il s'agit. Dans la salle d'attente, un jeune patient se met à parler avec un analysant de Freud. L'homme lui raconte que son chien vient de tuer et de dévorer une poule. L'enfant lui répond immédiatement « Mais il faudrait envoyer le chien chez Freud ». L'adulte est offusqué et il marque sa désapprobation. Mais quelle idée se faisait donc cet enfant de la psychanalyse? Du fait, rien ne manquait au chien, mais il lui prend quand même l'envie de mettre en pièce une poule, et il le fait. Anna Freud ajoute qu'elle savait bien ce que le petit garçon avait voulu dire. Le pauvre chien voulait être tant bon chien, mais quelque chose en lui le forçait à mettre en pièce des poules. Alors, cette anecdote est très intéressante par ceci qu'elle montre ce qui se révèle à l'adulte, ce sont ses désirs d'enfant, et que ce que rencontre l'enfant, ce sont les exigences de l'adulte. Le propriétaire du chien avait son idée sur ce qui se passait pour le chien. Et l'enfant pensait, à mon sens avec raison, que c'était au chien de parler à Freud de ce qui lui était propre. Par ailleurs, et de plus, il n'est pas rare, au fait, en plus du fait que l'on sache ce qui est bien pour l'autre, ou ce que l'autre pense quand il fait des actes comme ce brave chien, il n'est pas rare non plus qu'un passant soit identifié. Identifié par une objectivation. C'est un obsessionnel, un phobique, un maniaco-dépressif. C'est-à-dire que le patient devrait lui-même accepter de se mettre en conformité avec ce diagnostic qui lui a été attribué par l'autre du savoir. Y compris le psychanalyste. Ce sont des mots que l'on retrouve aussi dans nos conversations. Parfois même dans les cas cliniques sont présentés pour les journées ou pour les congrès. Et ceci, étiqueté par l'autre du savoir, avant même qu'il n'ait pu commencer à parler et à s'expliquer. Ceci dans le lien de transfert qui n'a pas encore eu la possibilité de s'établir, lien de transfert avec un analyste. Un autre exemple est donné concernant les parents quand ils amènent leur enfant chez l'analyste. Ils ne mettent pas tellement en avant ce dont souffre l'enfant, mais bien plus les reproches qu'ils ont à lui faire. Pourquoi le psychanalyste devrait-il prendre en compte cette plainte des parents? La conséquence est de vouloir changer l'enfant afin de réduire cette plainte. Tout ça est dans le texte de Pontalis et Stern. Mais on voit que voilà, ça reste toujours d'actualité. On entend ça très fréquemment, et même on ajoute, mais que voulez-vous que l'on fasse avec ses parents? Pontalis et Stern, eux, proposent aussi quelques-uns de ces préjugés transférentiels. Ici, sur la mère qui fait obstacle. Ailleurs, il ne faut pas prendre l'enfant, mais envoyer le père en analyse. Pour déplacer l'enfant de sa position d'objet et en le reconnaissant comme sujet parlant. Ces différents points, donc, abordés dans le texte de Pontalis et Stern, relativement à la rencontre d'un enfant et d'un analyste, ont aussi toute leur pertinence chez l'adulte. Le déplacement de la demande à un savoir préjugé de l'analyste détourne du véritable enjeu pour le sujet analysant, qui là s'est transformé en symptôme, ici de la famille, ailleurs du couple ou du groupe. Mais lui, le symptôme, le dit symptôme, n'a pas encore commencé à parler, qu'il est déjà classifié. En poursuivant notre réflexion dans le groupe d'actualisation clinique, nous étions arrivés à penser que cette position exigeante, nécessaire par rapport à la clinique que nous soutenons, pourrait aussi nous isoler. Au fond, que nous pourrions être considérés comme une sorte de société secrète, où l'on pourrait se sentir en effet différent. Mais ceci n'est pas non plus sans écueil. Par exemple, cela pourrait conduire à désigner quelle serait la bonne catégorie des psys. Quelle serait la pertinence du miroir dans lequel nous reviendrait la bonne image de nous-mêmes? Que nous-mêmes, nous serions protégés des dérives. Que veut dire la pertinence de telle ou telle pratique psy? Voilà, nous avions conclu que c'était la voie dans laquelle il ne fallait pas s'engager. D'une façon plus générale, revenons avec Lacan, à ce qu'il remarque que les psychanalystes ont toujours quelque chose à ajouter, à contester, à tout discours qui viendrait en compétition avec le discours de l'inconscient. Pour Lacan, et le mot est très fort, il y a là une sorte de gloutonnerie qui est liée à l'institution psychanalytique. Ça nous amène à réfléchir. Et qui est constituée par l'idée de se faire reconnaître sur le plan du savoir. Ça, c'est Lacan qui le dit dans La logique du fantasme, page 273. Bien plus, Lacan parle d'une compétition dans ce qu'il appelle un marché de la vérité. C'est toujours dans la logique du fantasme. Où pourrait se loger la jouissance du psychanalyste, sauf à prendre acte de ce que Lacan marque comme une fêlure, le mot est important, de lui, en pointant ceci, le désir de l'analyste. Soit que le désir de l'analyste est ce qui s'oppose à la prétention d'un savoir relativement à la vérité. Alors, la cause toujours. Cause toujours. Cette expression française désigne les bavardages, bavardages sans fin, qui ne mènent à rien de nouveau. Ça ne touche pas à l'ordre établi, à la répartition des prérogatives. Et donc, c'est propice à l'imaginaire. En fait, vous le savez, l'expression française complète est « cause toujours, tu m'intéresses ». Formulation ironique pour dire « je t'écoute, mais je ferai ce que je veux ». Cause toujours, c'est aussi que l'on peut parler à l'infini de ce qui serait un rapport éthique à la psychanalyse, à la pratique, à sa cause, mais dans ce sens-là, à s'en affranchir. Cause toujours, cette fois avec un C majuscule à cause, la cause toujours. Voilà qu'en soulignant ce mot dans notre rapport à la cause analytique, cela devrait nous parler tout autrement, hors du psy. Pour terminer, les mots de la haine. Soutenir une parole suppose une éthique, une affirmation de soi. Cela n'est pas sans considérer, j'y reviens, sur la dimension subversive du discours analytique. Il en va différemment lorsque l'on est, à un moment donné, d'une société, d'un pays, confronté à une libération de la parole qui résulte, sous les injonctions partisanes et haineuses, d'une effraction de la censure. Habituellement, celle-ci laisse dans l'inconscient ce qui reste insu des desseins les plus obscurs de tous les humains. Alors, quand elle n'est plus retenue, cette parole est porteuse d'un discours de haine, marqué du mépris de l'autre, de l'incitation à la discrimination, à la dénonciation, à l'exclusion, voire à l'élimination physique de personnes ciblées. Nous en reparlerons le 17 janvier 2006. Et là, je vous ai mis donc à l'écran l'affiche que nous avions en juillet 2017, en plein dictature au Venezuela, nous avions quand même organisé un colloque qui s'appelait « La psychanalyse et la liberté de la parole ». Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui.
Merci beaucoup Guy Briol. Donc pour cette troisième intervention, vous reviendrez le 17 janvier 2026.
C'est ça.
Alors, d'abord peut-être pour commencer, je voudrais aborder avec vous. D'abord, vous abordez un certain nombre d'écueils qui ont attrait à la psychiatrie d'aujourd'hui, enfin à la médecine, au discours capitaliste et aux évaluateurs et experts dans différents domaines. Donc vous pointez un certain nombre d'écueils, mais surtout, ce qui fait le cœur de votre intervention, c'est que les écueils peuvent être des tentations aussi pour les psys et les analystes que nous sommes, si nous ne veillons pas à nous tenir sur une arête, pour reprendre un signifiant que vous avez employé lors de nos discussions tout à l'heure, une certaine vigilance des analystes eux-mêmes. Donc je voudrais que vous développiez ça. Et au fond, c'est garder un certain réveil pour ne rester éveillé sans cesse. Et donc, finalement, puisque vous interrogez à l'appui de ce que disait Jacques-Alain Miller du suffixe « psy » qui engloberait un certain nombre de pratiques, en quoi, finalement, un analyste ne se fond pas, ou en tout cas doit veiller à ne jamais se fondre et pourquoi un analyste n'est pas équivalent à psy. On parlait de ça tout à l'heure. Vous allez nous répondre sans doute. Et peut-être aussi partir de deux statuts, ça ne suffira pas le temps qu'on a de discussion, mais vraiment singulier, de deux points fondamentaux pour les analystes qui doivent veiller à le rester. C'est la parole, le statut bien particulier de la parole et le statut bien particulier d'un savoir non clos sur lui-même. Donc voilà, je voulais que nous revenions sur ces deux points, le statut bien singulier de la parole, pas simplement de l'analysant, mais de l'analyste lui-même. Alors vous parlez de la valeur d'échange de la parole, la matière de la parole même. On connaît ce texte formidable de Lacan, Fonction et champ de la parole et du langage, où beaucoup de bases sont posées. Et donc la question du savoir. Est-ce que voilà, on pourrait parler de ça pour commencer ?
Oui, alors... En écrivant mon travail, je me disais au fond, est-ce qu'on doit continuer à s'appeler psychanalyste ou analyste ? C'est vrai que la tradition fait que on s'appelle psychanalyste. Mais peut-être qu'il faut garder psychanalyste, mais en mettant en tension quand même psy et analyste. La tendance, au fond, peut-être que ce qui peut résumer ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est qu'il peut y avoir une certaine tentation à accentuer le psy au détriment de l'analyste. C'est-à-dire en reprenant un certain nombre de choses que j'ai moi-même évoquées là, c'est-à-dire le savoir préalable. Quand même l'analyste, lui, c'est plutôt d'être dans une position en tant qu'analyste de non-savoir par rapport à celui qui vient lui parler de lui, ses difficultés. Donc, en effet, cette tension me paraît intéressante à faire résonner. Analyste, psychanalyste, c'est vrai que si on enlève le psy radicalement, alors on se met du côté de ce que nous disait au fond Jacques Alaminière de ne pas nous engager dans la voie de ceux qui jugeraient les autres, que nous serions les analystes et les autres plutôt donc sur le versant psy. Donc ça c'est une première question et aussi dans une discussion que nous avons eue, on me disait mais vous ne définissez pas l'analyste. Alors, oui, mais Lacan non plus, et il me semble que c'est dans l'introduction aux autres écrits, aux écrits en anglais, que là où il parle de faire la paire avec le patient, il dit au fond, la question n'est pas de savoir ce que fait l'analyste, la question est qu'il y ait du psychanalyste. Et ça me paraissait... être un point aussi important à souligner. Donc on ne peut pas prédéfinir non plus ce que fait l'analyste, comme lui ne peut pas non plus prédéfinir ce dont va lui parler ou ce qui est bon pour son analyse.
Alors après, ce qu'on se disait aussi dans nos discussions, c'est que finalement, que l'analyste redevienne, ou en tout cas s'efforce d'être, même si ce n'est pas une question d'essence analyste même, c'est qu'il est d'abord analyste à partir de sa propre analyse, oui. Et que donc ça reste tout à fait singulier, et que c'est aussi pour ça, moi j'ai été sensible à ça dans votre texte, c'est-à-dire que finalement, ça ne peut pas faire groupe, ça ne peut pas faire ensemble, puisque, au fond, ça ne peut pas faire un ensemble fini et clos à partir d'un dénominateur commun, puisque chacun... s'oriente de son analyse et via un désir de l'analyste qu'il y aurait à définir. Enfin, Lacan dit que c'est un X, c'est-à-dire que justement il n'y a pas de définition au sens d'une ontologie du désir de l'analyste ou de l'être analyste. Et finalement, ça nous met tout à fait à l'écart de la tentative du piège de l'être. Et d'une définition qui ferait un ensemble. Juste pour la référence que vous citez, alors j'ai cherché cette question de du psychanalyste, je suis tombée sur une autre référence où Lacan dit, c'est dans Le savoir du psychanalyste, je parle au mur, et il insiste, et je trouve ça intéressant quand on s'intéresse à la langue, sur la valeur logique de l'article défini du. Mmh. C'est du psychanalyste, et non pas le psychanalyste ou un psychanalyste. Juste pour compléter aussi ce que vous disiez sur le savoir et sur la subversion, puisque vous en parlez dans votre texte, et que finalement, il y a une subversion même qui se produit, dit Lacan, dans la structure du savoir. Donc c'est un nouveau statut du savoir qui ne s'adjoint pas à la vérité. C'est ce que vous disiez dans votre texte.
Bon, il y a beaucoup de questions. Mais en tout cas, le « du », ça renvoie à la singularité.
Voilà.
Il n'y a pas les analystes, il y a l'analyste au un par un. Ça aussi, il le souligne dans la logique du fantasme. Et moi, j'ai trouvé ça très fort, que le désir de l'analyste, comme il le dit donc dans ce séminaire, c'est ce qui s'oppose au savoir. Vraiment, l'analyste, lui, il est dans la position de non-savoir. Et c'est vrai que, par exemple, quand on présente, quand on se soumet, comme le disait Lacan, il faut contrôler les cas avec un contrôleur, mais aussi soumettre sa pratique en exposant des cas, soumettre sa pratique à tous. Dans cette situation-là, ce dont on rend compte, c'est quand même de la singularité de la place de chacun. C'est pas pour faire valoir, c'est pour transmettre quelque chose de l'acte et pas pour faire valoir son savoir, ni a fortiori son savoir-faire. Parce que là, on se trompe. Donc ça, c'est le désir de l'analyste s'opposant donc à la position de savoir et à la rivalité sur le marché de la vérité. Ça aussi, c'est quand même quelque chose de très fort, alors que l'on sait nous-mêmes que la vérité est toujours déplacée vers une autre vérité, sans même parler de la vérité menteuse. La vérité menteuse, c'est que ça pousse quand même à continuer à travailler. Je pense que c'est ce que nous montrerons aussi nos collègues à eux, dans ce qu'ils présenteront de leur retour sur ce que fut leur passe et leur transmission. C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas. C'est pas quelque chose qui a comme ça une fin. C'est une position éthique que ça n'est pas une fin et que l'on sache. Il y a toujours quelque chose à apprendre sur soi et en écoutant les autres aussi, ce qui n'est pas une mauvaise leçon. Alors, sur la question de... Ça renvoie aussi à la manière que l'on a d'écouter. Et c'est pour ça que je reprenais... c'est pas pour faire joli que je reprenais... le mot de Lacan, il faut qu'il y ait des esgourdes appropriées. C'est qu'en effet, esgourde, voilà les grandes oreilles, ça inclut gourde, la gourderie, qui est un mot qui existe dans le vieux français, qu'on n'utilise plus tellement aujourd'hui, et qui signifie la bêtise. C'est-à-dire qu'il faut sortir de sa propre bêtise de penser que l'on sait pour pouvoir bien entendre. Pour moi, c'est ça que dit cette phrase précisément de Lacan.
Trop de savoir peut boucher les oreilles.
Oui, il faut savoir, oui, désensabler les esgourdes, comme dit l'expression. En fait, c'est quand même se laisser un peu aller aussi à être dupe des mots et non pas duplice. Je ferai un peu cette différence-là. Pour la question de la subversion... pas quelques petites choses comme ça qui me viendraient. Le discours du maître n'est pas, par rapport au discours analytique, le discours analytique, je dirais, n'est pas en opposition, mais à l'opposé. Mm-hmm. C'est-à-dire que, en opposition, c'est vraiment faire de la politique. À l'opposé, c'est quand même décompléter, marquer la division du sujet. Par rapport à la vérité dont vous parliez, là aussi, il ne s'agit pas d'adapter un sujet aux normes, mais il s'agit qu'il puisse trouver sa question, sa vérité, même toujours déplacée, dans le travail analytique. Et par rapport au groupe, là aussi, tout de même, la rivalisation de savoir, comme je l'ai dit, Lacan la rattache à quelque chose à quoi pousseraient les institutions psychanalytiques, c'est quelque chose dont il faut se garder, qu'il faut aussi toujours questionner. C'est-à-dire que le questionnement des institutions, qu'elles soient politiques, qu'elles soient analytiques, qu'elles soient d'autres groupes, et se différencie quand même d'une opposition. C'est-à-dire la question de la subversion n'est véritablement une subversion que si elle amène à un questionnement, pas à savoir qui a le plus de savoir et qui a finalement le dernier mot. Même ça me fait penser à un mot de Jacques-Alain Miller qui indiquait que, au fond, la clinique analytique n'est pas celle du dernier mot, mais celle toujours du dialogue ouvert. Et la subversion, c'est ça, c'est maintenir toujours un dialogue pour que chacun ait l'opportunité de se questionner.
C'est vrai qu'il y a des citations de Lacan formidables quand vous reprenez ce que Lacan dit du terme de fêlure en pointant le désir de l'analyste. Enfin, c'est quand même formidable. Enfin, ça a à voir avec cette quête qui ne s'arrête pas.
Et ça a à voir en effet avec la division, mais qu'il appelle fêlure, je trouve ça très, très fort. Ça marque plus que division. Division. C'est un mot peut-être un peu usé, même s'il garde sa valeur. Mais fêlure...
Et parce que ça touche au corps aussi.
Oui.
Et qu'on ne peut pas faire sans le corps, qu'on soit analyste ou analysant. Alors après, peut-être un autre point, mais qui met un pied sur ce que vous allez aborder la prochaine fois... quand vous citez Camille Lorenz et qui dit que l'effondrement des mots peut être un véritable danger pour la démocratie. Et donc, au fond, elle dit le terme volubile, où les jeunes disaient bah non, c'est pour les riches. Elle dit au fond, vous pouvez jouer avec les mots, vous pouvez jouer avec la langue. Et finalement, l'effondrement des mots qui peut exister aujourd'hui. Ça va quand même de pair avec un autre versant dont vous parlerez peut-être la prochaine fois, qui est une certaine férocité vouée à la langue, puisqu'à la fois il peut y avoir un certain mépris de la langue, un effondrement de la langue, mais aussi une vision qu'on pourrait dire bétonnée, cimentée de la langue, au sens où, là aussi, je reprends le terme que j'employais tout à l'heure, une certaine vision ontologique de la langue où le langage, le mot serait égal à la chose, le langage dirait ce qui est, et qu'il faudrait absolument veiller à ne pas user de certains mots qui pourraient heurter la sensibilité contemporaine, faire office de discrimination. Et il me semble que c'est un point intéressant, puisque ça va aussi avec une certaine vision du langage et de la parole que les analystes ont, qui est que le langage est poétique, qu'il y a de multiples significations dans un mot, qu'on joue des équivoques et des malentendus, que la langue est vivante, bien sûr. Et voilà, c'est-à-dire que quand vous écrivez « Toutes les dictatures, on le sait, commencent par détruire le pouvoir de vérité de la langue », c'est-à-dire le pouvoir de vérité de la langue, ça serait plutôt la vérité subjective, au sens où chacun fait circuler et peut faire circuler, non pas une objectivité, une signification univoque, mais de multiples sens. Et à ce sujet, il y a une phrase de Lacan que j'aime beaucoup, qui est issue du discours de Tokyo, qui parle du poème de Francis Ponge, La Table, et qui dit, c'est une phrase très claire de Lacan, mais je trouve qu'il résume bien ça, qui dit, si on croit que table, ça veut dire table, alors on ne peut plus parler. Et je trouve que c'est, si on pense que gros veut dire gros, alors on ne peut plus parler, etc., etc. Donc ça ouvre, ne pas oublier, voilà, la poésie, la matière poétique que véhicule la langue.
C'est très fort, ça, parce que les mots, comme le dit Camille Lorenz, doivent quand même garder leur force. Pour ça, il faut que la culture, que ça se transmette, que la lecture et que ce qui a compté dans l'histoire continue à compter dans l'histoire. L'histoire récente nous montre qu'il y a des mots qui sont détournés quand même de leur usage et que c'est grave et que ça attise plutôt la haine que ça ne concourt à la paix. Et par rapport à ce que disait Camille Laurent, si on donne plus la valeur aux mots, ça me fait penser à des statistiques et des enquêtes qui étaient faites ces derniers temps sur les mauvaises prévisions économiques et politiques en France au mois de septembre. Et la question, c'était « Craignez-vous un septembre noir ?» C'est une horreur pure. C'est-à-dire que tout de même, utiliser ça... Et alors, j'ai trouvé ça dans un journal qui est sur Internet, qui n'est pas très raisonnable, mais quand même, France Info, qui sont des gens très sérieux, même, ils n'hésitent pas, pour faire un bon mot, à utiliser quelque chose totalement détourné de ce que c'est. Bon. À Caracas, c'était l'image que je vous avais donnée, c'était au point que les psychanalystes étaient surveillés par une police et que les analysants étaient suivis pour voir chez qui ils allaient. Donc là, c'était d'une extrême force. Et eux-mêmes, il y a un petit texte qui avait été publié dans La Cause du Désir sur justement leur pratique. C'est-à-dire qu'ils pouvaient, quand ils avaient repéré quelqu'un qu'ils avaient suivi, ils pouvaient rester chez l'analyste toute la nuit, plusieurs, pour ne pas être pris à la sortie. C'est-à-dire que vraiment, une manière de porter atteinte à la liberté, c'était que ça s'exerçait réellement sur les personnes à partir d'un lieu où la parole, justement, est supposée libre. Et c'est dans ce contexte-là, on était suivi, où bon, il y avait des attaques un peu partout et la police très violente, qu'avait été organisé donc ce colloque à Caracas sur la liberté de la parole. Et à tout moment, ils craignaient que la police ne rentre dans le lieu où l'on était. Bon, ils ne sont pas venus, mais beaucoup de jeunes de la faculté étaient venus, parce qu'au fond, quand même, avec la psychanalyse, c'était encore un endroit, un lieu, des personnes avec lesquelles on pouvait partager et parler. Et ça, c'était très fort. J'essaierai de montrer ça la prochaine fois.
Voilà, donc on se donne rendez-vous le 17 janvier 2026. Voilà, on va s'arrêter là, puis après, la discussion va continuer. Merci Guy Briolle, merci à la librairie Mola.